Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion à ce micro pour le monde aujourd'hui. Au sommaire de cette édition du mardi 30 mai 2023. Au Burkina Faso, le premier ministre Kélém de Tambela promet une meilleure riposte aux djihadistes dans un discours sur l'état de la nation. Au Sénégal, le président Macky Sall lance le dialogue national demain, mercredi, et ce sera au Palais de la République.
Le dialogue tel qu'il est posé est un peu piégeux et piégé, dans la mesure où la temporalité à laquelle ce dialogue intervient pose problème.
Reportage à suivre de notre correspondant à Dakar dans la partie magazine. Les combats continuent de faire rage ce mardi au Soudan, où une trêve jamais respectée a été prolongée. Attaque de drones sans précédent sur Moscou, Poutine dénonce une provocation. Ici aux États-Unis, la balle est dans le camp du Congrès pour éviter le défaut de paiement sur la dette. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le premier ministre du Burkina Faso, Joachim Kélém de Tambela, a prononcé aujourd'hui devant les députés de l'Assemblée législative de transition son discours sur la situation sécuritaire délétère à cause des attaques des groupes armés. D'après Kélém de Tambela, malgré tout, plus de 20 000 ménages comprenant environ 125 000 déplacés internes sont retournés dans leur localité d'origine. Le point avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Le Premier ministre a souligné devant les députés que pour vaincre la menace terroriste, avec l'appui des nouveaux partenaires, le pays a pu acquérir des armes performantes et souvent 5 à 10 fois moins chères. Cela a permis d'équiper toute l'armée et aussi les supplétifs de l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Il a déclaré que l'ambition est de porter le nombre de ces VDP à 100 000 hommes pour que les populations soient en mesure d'assurer leur propre sécurité. Maître Kélém de Tambela a souligné que la mise en œuvre de certains projets ont permis de doter certaines localités en eau potable et de financer des micro-projets agro-pastoraux. Le chef du gouvernement s'est aussi exprimé sur la question de la corruption et de la bonne gouvernance. Ceux qui pensent que la lutte contre la corruption n'est pas engagée ou qu'il y a des corrompus en liberté sont vivement invités à apporter leur concours. Ils peuvent saisir les instances de l'État et même la primature qui fera suivre si elle estime que les éléments sont sérieux, a insisté Apollinaire Kélém de Tambela. L'essentiel des préoccupations des députés ont tourné autour de la prise en charge des personnes déplacées, de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Dans l'ouest du Burkina Faso, une quarantaine de personnes, dont des supplétifs de l'armée, ont été tuées le week-end lors de deux attaques de djihadistes présumés. Samedi, un convoi sécurisé près de Bourassa a été attaqué. Et dimanche, une vingtaine de personnes ont été tuées dans la même région dans une autre attaque, selon une source sécuritaire. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko appelle ses compatriotes à se lever comme un seul homme contre le pouvoir à l'approche d'un verdict contre lui dans une affaire de viol. M. Sonko s'est dit séquestré chez lui par les forces de sécurité après avoir été interpellé dimanche et ramené à Dakar. Au Soudan, la trêve jamais respectée est prolongée de 5 jours pour tenter d'acheminer de l'aide humanitaire sur le terrain. Raid aérien, Tida Thierry et mouvement de blindés ne cessent pas. Alexandrine Ollognon.
Les généraux ont accepté de prolonger lundi soir de 5 jours un cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 mai. Mais les combats font rage à Khartoum et au Darfour. La guerre continue depuis le 15 avril. Selon les Nations Unies, 25 millions de Soudanais, dont plus de 13 millions d'enfants, ne peuvent plus survivre sans aide humanitaire. Les humanitaires demandent à accéder à Khartoum et au Darfour, les deux régions les plus touchées, pour réapprovisionner leurs réserves, dont certaines ont été pillées. Mais jusqu'ici, ils n'ont pu acheminer que de petites quantités de nourriture ou de médicaments, car leur personnel ne peut se déplacer en raison des combats. Quant à certaines zones du Darfour, elles sont désormais totalement coupées du monde, sans électricité, sans internet ni téléphone, et les militants soudanais disent redouter le pire. Par ailleurs, plusieurs pays, dont la Libye, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont déploré des attaques et pillages de leur ambassade à Khartoum.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé aujourd'hui d'un an l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018 au Soudan du Sud. La résolution rédigée par les États-Unis appelle les parties à éviter de replonger dans un conflit généralisé. L'embargo sur les armes est prolongé au Soudan du Sud jusqu'au 31 mai 2024. La France et Djibouti ont lancé commencé ce mardi l'examen de l'accord de défense qui lie les deux pays. Les ministres français des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et des armées, Sébastien Lecornu, ont reçu à Paris Mahmoud Ali Youssef, le ministre des Affaires étrangères, et Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense. Djibouti accueille la plus grande base militaire française à l'étranger, aux côtés d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine. Le principal parti d'opposition en Afrique du Sud a affirmé aujourd'hui avoir saisi la justice pour s'assurer que Vladimir Poutine serait arrêté s'il posait pied dans le pays où il est attendu en août pour un sommet. L'Alliance démocratique demande à la justice sud-africaine une ordonnance stipulant que M. Poutine arrive en Afrique du Sud pour participer au sommet des BRICS. Le gouvernement devra procéder à son arrestation comme exigé par la Cour pénale internationale. Les militants ougandais de défense des droits humains réclament des sanctions contre les autorités de leur pays après la promulgation d'une loi anti-homosexualité qui, selon eux, légalise l'homophobie et la transphobie. Le président Yoweri Museveni a approuvé cette loi en dépit des mises en garde de ses partenaires internationaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de chercher à terrifier les Russes après une attaque de drones sans précédent aujourd'hui contre Moscou et sa région. L'Ukraine dément toute implication au moment où Kiev subit une nouvelle vague de frappes meurtrières. Jacques Aristide.
8 drones ont été détectés à Moscou et dans sa région. Tous ont été neutralisés, mais certaines épaves sont tombées sur des habitations. 2 personnes ont été légèrement blessées. La diplomatie russe a accusé les pays occidentaux d'être responsables, par leur soutien à Kiev, de l'attaque qualifiée d'irresponsable contre Moscou. Pour le président Poutine, qui se dit satisfait de la défense antiaérienne de son pays, l'Ukraine veut intimider les Russes. Le maître du Kremlin ajoute que l'attaque est une riposte à une récente frappe russe sur le quartier général des services de renseignement militaires ukrainiens. Kiev n'a pas fait état récemment de bombardements sur ce bâtiment. L'assaut de drones contre Moscou, capitale éloignée du front, est le plus massif depuis le début du conflit en février 2022. Il intervient après plusieurs jours de frappes meurtrières contre Kiev, où une personne a encore été tuée la nuit dernière. L'Ukraine, qui affirme depuis des semaines être en train d'achever ses préparatifs pour une offensive d'ampleur, n'a revendiqué aucune des attaques qui se sont multipliées ces dernières semaines sur le sol russe.
Les États-Unis ne soutiennent pas les attaques militaires visant la Russie sur son territoire. Nous sommes concentrés sur la fourniture à l'Ukraine de l'équipement et de l'entraînement nécessaires pour reprendre son propre territoire souverain, a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine en marge d'une visite du secrétaire d'État Anthony Blinken en Suède. À l'approche de la date limite, le Congrès américain se lance dans une course contre la montre demain mercredi pour examiner l'accord conclu entre le président Joe Biden et le chef de file républicain Kevin McCarthy. Cet accord vise à éviter un défaut de paiement des États-Unis aux répercussions mondiales. Eric Manirakiza.
Une première réunion cruciale de la commission du règlement de la Chambre est prévue dans l'après-midi et devrait donner une indication de l'état des forces. Mais une frange d'élus républicains et démocrates s'oppose au compromis arraché au cours du week-end après des négociations marathon. Si tout va bien, Kevin McCarthy a prévu un vote à la Chambre mercredi en séance plénière. Ce sera ensuite au tour du Sénat, à majorité démocrate, de s'en saisir. Dimanche soir, le président Joe Biden a invité les élus à adopter cette législation. Selon M. Biden, cet accord permet d'éviter un défaut de paiement pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une récession économique, des comptes épargne et retraite dévastés, et des millions d'emplois perdus.
L'OTAN a annoncé aujourd'hui l'envoi de nouvelles forces au Kosovo, où des manifestants en Serbe sont toujours rassemblés devant une municipalité du nord du territoire, théâtre la veille de heures, ayant fait une 30aine de blessés parmi les soldats internationaux et une 50aine parmi les protestataires. Quelques 120 000 Serbes vivent au Kosovo sur 1,8 million d'habitants. Environ un tiers d'entre eux habitent dans le nord. La Corée du Nord dit avoir achevé le développement de son premier satellite d'espionnage militaire. Son dirigeant Kim Jong-un a approuvé les derniers préparatifs en vue du lancement. Aucune date exacte n'a été annoncée, mais Pyongyang a déjà informé le Japon d'un lancement prévu entre le 31 mai et le 11 juin, ce à quoi Tokyo a répondu en mettant ses défenses antimissiles balistiques en état d'alerte. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Oloignon.
La Banque mondiale va financer des projets de développement au Burkina Faso à hauteur de 421 millions d'euros pour améliorer l'entrepreneuriat et la fourniture de services de base dans plusieurs régions. Près de 4 millions de personnes doivent en bénéficier, y compris les déplacés internes qui fuient les violences djihadistes qui frappent le Burkina Faso. Le Kenya bénéficie également d'un prêt d'$1 milliard de la Banque mondiale pour soutenir son budget, alors que la puissance économique de l'Afrique de l'Est est confrontée à des dettes élevées et à un affaiblissement de sa monnaie. Le Kenya s'engage à mettre en place des réformes visant à créer un espace fiscal, à améliorer la compétitivité de l'agriculture et à renforcer la gouvernance. Des experts alertent sur les menaces d'extinction pour l'humanité liées à l'intelligence artificielle. La déclaration mise en ligne ce mardi indique que l'atténuation du risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Sam Altman, PDG du fabricant de ChatGPT OpenAI, et Geoffroy Hinton, informaticien connu comme le parrain de l'intelligence artificielle, font partie des centaines de personnalités qui ont signé la déclaration.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Parlons d'abord de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023.
Le tirage au sort officiel aura lieu le jeudi 12 octobre 2023. Ainsi a décidé le comité exécutif réuni à Alger sous la houlette du président de la CAF. Ce dernier a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes au plus haut sommet de l'État pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la compétition soit une totale réussite.
Football toujours, Chancel Mbemba élu meilleur joueur africain de Ligue 1 en France.
Le défenseur congolais de Marseille, Chancel Mbemba, a reçu mardi le prix Marc Vivien Fouet qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Mbemba, 28 ans, a devancé le milieu de terrain ivoirien de Lens, Seko Fofana, lauréat l'an dernier et qui faisait figure de grand favori, et l'attaquant nigérian de Nice, Terem Moffi. Révélé d'abord à Anderlecht, Mbemba a rallié ensuite Newcastle en 2015 avant de s'imposer à Porto 2018-2022 où il a réussi à deux reprises le doublé championnat coupe 2020-2022. Depuis son arrivée à Marseille cette saison, il est devenu l'une des pièces maîtresses de la défense de l'OM, actuellement troisième de Ligue 1 et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le prix Marc Vivien Fouet, créé en 2009, est attribué par un jury de près de 100 personnes, journalistes, consultants, anciens joueurs. Ce prix porte donc le nom de l'ancien international camerounais, décédé en plein match d'un arrêt cardiaque lors de la Coupe des Confédérations en 2003 à Lyon.
Playoff du hockey sur glace, les Golden Knights affronteront les Panthers en finale.
Les Golden Knights de Las Vegas se sont qualifiés pour la finale du championnat nord-américain de hockey sur glace NHL en éliminant les Dallas Stars au sixième match, largement remporté 6-0 lundi en playoff. La franchise du Nevada tentera de remporter sa première Coupe Stanley contre les Florida Panthers. C'est la deuxième fois depuis 2018 qu'elle atteint ce stade. Et à l'époque, Washington avait été sacré champion. Vegas a tué tout suspense dès le premier tiers-temps en menant 3-0 sur la patinoire des Texans, qui restaient pourtant sur deux succès d'affilée dans cette série et croyaient encore fort en leur étoile.
Rugby, dans 100 jours, la France accueillera la 10e Coupe du Monde en favorite.
Le tournoi se déroulera du 8 septembre au 28 octobre pour la première fois en favorite, un statut que les Bleus partageront avec l'Irlande et les All Blacks et les champions en titre sud-africains. 20 équipes réparties en 4 poules, 48 matchs disputés dans 9 stades. La France va vivre à la rentrée pendant presque 2 mois au rythme du rugby sur tout son territoire, une sorte de test avant d'accueillir les Jeux Olympiques à l'été 2024 à Paris.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Soudan, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui ont chapeauté l'accord préalable en vigueur pour une semaine, ont annoncé que l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire rival ont accepté de prolonger la trêve de 5 jours supplémentaires. C'est pour permettre plus d'efforts humanitaires, alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Eric Manirakiza a joint à Khartoum Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident de la capitale soudanaise. Il s'est immergé dans les rues de Khartoum.
En effet, il y avait jusqu'à la gare centrale. La gare centrale, c'est au centre-ville, mais à peu près 300 mètres du centre-ville proprement dit. C'est-à-dire environ des palais républicains, des quartiers généraux de l'armée et tout ça. Je suis allé jusque-là, c'est la gare centrale des minibus qui viennent de partout, de Khartoum Nord, de Durban et du sud de Khartoum. Je suis arrivé jusqu'à là. Et puis, je pensais à m'avancer un peu vers le centre-ville, mais déjà, mon conseiller ne pas avancer parce qu'il me dit qu'il y a des tireurs d'élite qui sont dans les immeubles, qui tirent à la verglette sur les passants.
Donc, vous arrivez dans le centre de Khartoum et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous observez?
Je vois tout ce qui est destruction. Des rues goudronnées creusées, des voitures brûlées, des bâtiments détruits, au moins les façades sont abîmées, des magasins et des boutiques pillées, les portes cassées, et puis très peu de gens qui sont là. Oui, j'ai pensé avancer un peu vers le centre-ville, le vrai centre-ville, les alentours de palais présidentiel et le quartier général de l'armée et tout ça. Mais les gens qui étaient là m'ont conseillé de ne pas y aller. J'ai entendu des balles tirer vers le centre-ville. Alors, je me suis retourné par la même voie.
Est-ce que vous étiez tout seul? Comment avez-vous pu aller là-bas? Est-ce qu'il y avait des barrières à franchir?
Le transport en commun a commencé à être rétabli, mais pas comme avant. Avant, il y avait des bus, des grands bus. Maintenant, il y a des minibus de 20 passagers qui circulent dans les rues de Khartoum. Le nombre de véhicules aussi est très peu par rapport à ce qui était avant. C'est à moins que 10% du transport en commun qui était avant le combat. En plus, dans le minibus qui prend normalement 20 à 25 personnes, tu trouves 10. À cette lumière où j'étais, il y avait 7 personnes. Moi, 6 autres personnes, y compris le chauffeur.
C'était Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident de la capitale soudanaise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, le président Macky Sall lance le dialogue national ce mercredi 31 mai 2023 au Palais de la République. Une rencontre qui est la source de beaucoup de frictions depuis son annonce dans un contexte de tensions politiques. Pour certains experts, le dialogue en soi n'est pas mauvais, mais c'est son contexte et son impact qui sont au cœur des divergences. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Certains de ses partisans l'appellent l'homme du dialogue, car depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Macky Sall a organisé plusieurs rencontres avec les forces vives de la nation. Cependant, l'analyste politique Mohamedou Lamine Barolou s'interroge sur la finalité de ces différents dialogues.
Sous le magistère de Macky Sall, plusieurs dialogues politiques ont été convoqués. Et la remarque que la plupart des acteurs font, politiques comme non politiques, c'est que les conclusions des dialogues sont souvent appliquées à la carte. Et on se rend compte généralement que ce sont les positions qui sont défendues par le parti au pouvoir qui sont généralement retenues, même si c'est des positions qui peuvent faire parfois accord avec les autres. Donc c'est généralement ces positions qui sont retenues. Ce qui fait qu'à chaque fois que le dialogue est appelé, le doute persiste et ce dialogue qui est appelé ce 30e mai également n'échappe pas donc à ces doutes-là.
Des doutes, Ibrahim Malik Thioune, juriste et analyste politique, en a également.
Le dialogue tel qu'il est posé est un peu piégeux et piégé, dans la mesure où la temporalité à laquelle ce dialogue intervient pose problème. Il y aura également un problème d'ordre du jour sur quoi on devra dialoguer. Il y a un autre problème qui est plus essentiel à mon sens et qui peut brimer ou biaiser ce dialogue-là, c'est celui des positions que les protagonistes à ce dialogue-là ont. Les positions sont comme irréconciliables.
Des dissensions sont d'ailleurs notées au sein de certaines entités de l'opposition et de la société civile qui peinent à trouver un consensus, comme le souligne l'analyste politique Mohamedou Lamine Barolou.
Même si le dialogue se tient aujourd'hui, il y a une frange importante de l'espace public qui s'y oppose. Et cela va naturellement impacter donc la crédibilité de ce dialogue-là. Parce que quand on fait un dialogue, l'objectif c'est de réunir donc les acteurs majeurs, les grands pôles. Et lorsque des acteurs majeurs ne sont pas sur la table, il va de soi que les conclusions ne vont avoir la crédibilité donc que le dialogue nécessite d'être implémenté par la suite.
Si une bonne partie de l'opposition reste dubitative quant au dialogue, d'autres y seront. Une présence qui donne du crédit à l'initiative du chef de l'État, d'après Ibrahim Malik Tchoune, juriste et analyste politique.
On observe qu'il y a une certaine partie de l'opposition qui a répondu au dialogue. C'est une bonne chose parce que la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Sitôt qu'une partie essentielle de l'opposition a répondu au dialogue, ce dialogue-là peut se dérouler. On serait en matière de société commerciale, on aurait pu dire que le quorum est atteint pour que les délibérations soient prises.
Toutefois, l'absence de la frange la plus importante de l'opposition et l'organisation d'un contre-dialogue par le mouvement des forces vives de la nation F24, dont est membre le parti PASTEF de Ousmane Sonko, risque de plomber les conclusions de la concertation conviée par le président Macky Sall. Pour certains acteurs de l'espace public, notamment l'opposition, le président Sall veut les diviser pour mieux abattre ses cartes. Céline Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République centrafricaine, l'Assemblée nationale a adopté hier la loi sur la tokenisation ou cryptographie des ressources naturelles du pays. Le texte a été voté par acclamation malgré des réserves émises par certains députés de l'opposition. Dans le pays, les réactions divergent. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
L'adoption de cette loi par une assemblée nationale presque vide sonne comme une victoire pour le régime de Bangui. La Cour constitutionnelle avait en 2022 jugé inconstitutionnelle la tokenisation, entendait la cryptographie des ressources naturelles du pays. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, cette loi permettra à la République centrafricaine de mettre en valeur ses ressources naturelles non exploitées afin d'en tirer profit. Rufin Binam Beltungu.
Avant, nos ressources naturelles et foncières n'étaient pas connues de par le monde. Mais à travers la technologie de blockchain, nous allons maintenant exposer ces richesses-là pour attirer les investissements directs et étrangers, mais aussi les investissements centrafricains, les investissements privés, locaux. Et donc pour nous, nous pensons que c'est une opportunité unique offerte à notre pays pour pouvoir mobiliser des financements pour les projets de développement.
Cette position est soutenue par le Conseil économique et social qui a approuvé cette loi avant son adoption par les députés. Alfred Poloko, président.
Porté par l'ambition de garantir un avenir meilleur aux générations présentes et futures, notre pays s'était doté d'une loi sur la crypto-monnaie il y a de cela plus d'un an. Très apprécié par les partisans d'une Afrique audacieuse à la reconquête de sa véritable souveraineté d'une part et combattue par d'autres, le projet du Sangokoin reprend forme à travers ce projet sur la tokenisation des ressources naturelles et foncières de notre pays.
Plusieurs députés de l'opposition, à l'exemple d'Anissé Georges Dolo Guélé, chef de file de l'opposition, Martin Ziguélé, ancien ministre et député de Bocaranga 3, et Rachel Ngakola, députée de Bombari 2, ont émis des réserves par rapport à cette loi. Selon ces trois parlementaires, membres de la Commission Finances et Ressources Naturelles de l'Assemblée nationale, non seulement cette loi n'est pas opportune, mais elle pose à ce stade plus de problèmes que de solutions. Martin Ziguélé dénonce un hold-up et annonce la saisine de la Cour constitutionnelle.
C'est un véritable hold-up sur le patrimoine du peuple centrafricain. La démarche indique que c'est un moyen mis en œuvre pour spolier la République centrafricaine dans des conditions opaques. C'est une démarche que nous considérons comme proprement antipatriotique. Nous nous organiserons pour attaquer cette loi devant les institutions consacrées par la Constitution.
Si les organisations qui soutiennent le pouvoir se réjouissent du vote de ce texte, certains membres de la classe politique centrafricaine y voient un danger. Dominique Désiré Hérénon, président de la Marche pour la démocratie et le salut du peuple en exil en France, exprime ses inquiétudes.
C'est une loi qui n'est ni objectivement justifiée ni bonne pour les centrafricains. En réalité, les députés viennent de délivrer au président Touadéré à son gouvernement un véritable permis, voire un chèque en blanc, pour pouvoir brader nos ressources naturelles, pour brader nos ressources foncières, pour brader nos terres agricoles. Et c'est l'avenir de notre pays qui s'en trouve hypothéqué. Et je suis grandement inquiet.
L'adoption de la loi portant création de la tokenisation des ressources naturelles et foncières de la République centrafricaine intervient plusieurs mois après celle portant création d'une monnaie numérique nationale, le Sangocoin. Des initiatives, selon le gouvernement, visant à lutter contre la corruption et à booster l'économie nationale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Alors que les Nations Unies appellent à une plus grande implication féminine dans les efforts de paix et de sécurité, les femmes d'Afrique de l'Ouest jouent un rôle de plus en plus important dans l'effort militaire de la région contre l'extrémisme. Les États-Unis y contribuent à travers une formation permettant d'amener davantage de femmes en première ligne de la lutte pour gagner les cœurs et les esprits face au terrorisme. D'Accra au Ghana, le reportage d'Henry Wilkins, le récit est de Rosine Monezero.
Au début du mois de mai, des femmes des forces armées ghanéennes ont pris part à un briefing où elles ont expliqué ce qu'elles ont appris sur les femmes, la paix et la sécurité lors des exercices Flintlock organisés en mars par les États-Unis. La lieutenant-colonel Jacqueline Galli affirme avoir compris pourquoi il est essentiel d'avoir des femmes en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Lieutenant-colonel Jacqueline Galli, forces armées ghanéennes.
Je pense que la présence de femmes dans l'équipe en tant que bâtisseuses de paix contribuera à freiner la situation en apportant une certaine forme d'aide aux victimes de violences, en particulier de violences sexuelles. Car la plupart de ces actes étant perpétrés par des hommes, les victimes seront donc plus à l'aise pour en parler avec les femmes.
Selon l'Institut de la paix des États-Unis, les femmes, la paix et la sécurité constituent un cadre politique qui reconnaît que les femmes doivent être des actrices essentielles dans tous les efforts visant à instaurer une paix et une sécurité internationale durable. Cela peut aller de l'accompagnement des soldats par des femmes lors de missions de sensibilisation dans des villages contrôlés par des terroristes à la négociation d'accords de paix au plus haut niveau de l'État. Les manœuvres militaires annuelles Flintlock organisées par les États-Unis depuis 2005 pour former les partenaires en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest se sont déroulées cette année au Ghana et en Côte d'Ivoire, deux pays aux prises avec des incursions terroristes à leurs frontières septentrionales. Pour la première fois, l'exercice a fait des femmes, de la paix et de la sécurité un élément central. Fay Cuevas et chef d'état-major adjoint du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, SOCAF, qui a organisé Flintlock. Elle explique qu'avant cette formation, les armées d'Afrique de l'Ouest n'avaient pratiquement aucune capacité pour les femmes engagées dans le maintien de la paix. Fay Cuevas, commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique.
It is to work with our partners to build their civil military capacity, but from a female forward.
Il s'agit de travailler avec nos partenaires pour renforcer leurs capacités civiles et militaires, mais dans une perspective féminine. Aux États-Unis, avec les partenaires de la coalition en Irak et en Afghanistan, nous appelions ces équipes équipes d'engagement féminin ou équipes de soutien culturel.
En Afrique de l'Ouest, les contraintes culturelles liées aux interactions sociales entre les hommes et les femmes signifient qu'il est plus facile pour des soldats de gagner le cœur et l'esprit des femmes dans les communautés touchées par le terrorisme, d'où les efforts des Nations Unies en vue d'impliquer davantage les femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Quant à Galli, elle se réjouit de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme au Ghana. Lieutenant-colonel Jacqueline Galli, Forces armées ghanéennes.
Si vous êtes une femme, vous acceptez les défis et comme le serment que nous avons prêté avant d'entrer en fonction, vous allez là où on vous l'ordonne, par terre, par mer et par air, même au péril de votre vie.
Alors que la pression mondiale s'accentue pour un rôle plus actif des femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme, beaucoup d'autres suivront probablement les traces de la lieutenant-colonel Galli.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur